Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde. Journal représenté cette semaine par Pierre Lépidi. Bonjour Pierre.
Bonjour.
C'est l'un des prix les plus prestigieux au monde dans le domaine musical. Le prix Polar Music a récompensé les plus grands noms de ces dernières décennies. Paul McCartney, Quincy Jones, Stevie Wonder, Bob Dylan, mais aussi Myriam Makeba, Cecilia Bartoli ou le chef d'orchestre Nicolaos Harnoncourt. Une liste non exhaustive à laquelle il faut désormais ajouter un autre grand nom, celui de l'artiste africaine la plus connue dans le monde, Angélique Kidjo. Bonjour.
Bonjour.
Et bravo.
Merci.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Ce prix vous a été décerné il y a une dizaine de jours. Vous allez officiellement le recevoir dans quelques semaines, à la fin du mois de mai. Nous allons largement y revenir. Nous allons aussi parler avec vous de musique, de votre musique, mais aussi de l'industrie musicale et des profonds changements qu'elle connaît, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle. Nous évoquerons également des sujets qui vous tiennent à cœur, pour lesquels vous vous êtes très engagé auprès de l'UNICEF ou à travers vos deux fondations, Batonga et la fondation Angélique Kidjo. Il s'agit de la place des femmes en Afrique de l'Ouest, de l'accès à l'éducation et de l'environnement, entre autres. Mais avant de vous entendre, Angélique Kidjo, voici, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, notre instantané.
Your mission specialist, Christina Hammett-Koch.
It will be a four-day journey.
Ce sera un voyage de 4 jours, de 400 000 km, qui nous emmènera autour de la Lune, puis de retour à la maison à travers l'atmosphère de la Terre à 40 000 km/h, pour plonger dans le Pacifique. Alors, est-ce que j'ai hâte? Absolument.
Voilà, une femme, Christina Hammett-Koch, et 3 hommes, 4 astronautes choisis par la NASA pour la mission Artemis 2, mission qui doit préparer le retour d'humains sur la Lune, mission qui partira fin 2024. Qu'est-ce que vous vous dites, Angélique Kidjo, quand vous voyez cet équipage qui a été présenté cette semaine à Houston?
Moi, je crois que les femmes ont toujours été au départ de l'aventure de la NASA. Et c'est vrai que bon, souvent, on n'a pas parlé de leur apport dans ce domaine. Et avoir une femme qui va dans l'espace, ça me plaît beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien aller dans la Lune, mais pas sur Mars, quoi.
Il y a aussi un Afro-Américain qui va faire partie de cet équipage.
Encore mieux, la diversité.
C'est la première fois qu'un Afro-Américain va aller autour de la Lune.
Mais nos ancêtres en Afrique savaient déjà où le soleil se levait, où il se couchait. Donc, il est normal qu'on soit là. Et plus on a de diversité dans tous ces domaines pointus, mieux c'est, mieux on se porte.
Alors aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être astronaute pour pouvoir aller dans l'espace, faire des voyages sur la Lune notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Vous avez dit que vous seriez prête à y aller?
Moi, j'irais dans la Lune parce que c'est que les gens étaient là-bas, ils sont revenus. Mais aller sur Mars, je ne pense pas trop, non.
Est-ce que l'espace est un sujet qui peut vous inspirer, qui vous a déjà inspiré une chanson? Ou est-ce qu'il pourrait vous inspirer une chanson?
Moi, l'espace m'a toujours fascinée depuis que je suis gamine. Et des fois, je me couchais sur le dos et je me disais, mais il y a combien d'étoiles là-haut? Et si j'étais une étoile, où est-ce que je serais positionnée? C'est quelque chose qui est fascinant pour les êtres qui sommes sur Terre, d'avoir cette voûte au-dessus de notre tête qui nous pose plus de questions et de défis que ce qu'on peut se lever, aller dire, bon, je vais aller prendre un verre d'eau, quoi. Et ça m'a toujours... Moi, j'ai toujours été une gamine très, très curieuse et j'ai toujours posé des questions, mais c'est quoi le ciel?
Interrompons-nous à vos chansons maintenant, vos chansons qui depuis longtemps déjà vous permettent de parler de sujets qui vous tiennent à cœur, des sujets pour lesquels, pour certains, vous êtes engagés, je l'ai dit, et vous continuez à le faire. Retour sur cet engagement avec Florent Krebseg et Patrick Didier, c'est le Focus d'International.
Ouida, petite commune portuaire au Bénin, lieu de votre naissance et de votre enfance. Vous écoutez en boucle la togolaise Bella Bello, l'américaine Aretha Franklin, le français Johnny Hallyday. À 8000 km de là et quelques années plus tard.
Good morning, everybody.
New York, 2015. L'Organisation des Nations Unies vous confie l'ouverture de son Assemblée Générale. Angélique Kidjo, l'une des 100 personnes les plus influentes du monde, selon le magazine Time. Vous parlez de développement durable et d'éducation devant des dizaines de chefs d'État. Et le plus beau est à venir. Vous chantez Africa. Avec comme choriste les membres des délégations présentes au siège de l'ONU. Un moment suspendu, difficile de changer la face du monde avec une chanson, mais là, devant l'écran ou dans cette salle, on y croit. À ce moment précis, à l'ONU, votre message ne concerne pas seulement l'Afrique, mais la terre entière. Vous frappez à toutes les portes, militante pour le climat, une campagne auprès d'Oxfam pour un commerce équitable, création à Washington de la fondation Patonga qui aide les jeunes filles à bénéficier de l'éducation primaire et secondaire en vue de contribuer au développement des pays africains. En tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et en plein confinement, vous reprenez le titre emblématique de Myriam Makeba, Pata Pata, pour encourager la distance physique et les règles d'hygiène. Cette humanité, cette universalité et l'ensemble de votre carrière de chanteuse viennent tout juste d'être salués par l'un des plus prestigieux prix dans le monde de la musique, le Polar Prize. Il vient notamment récompenser votre dernière création en date. Un album avec le trompettiste Ibrahim Malouf qui nous conte une histoire présente dans l'Ancien Testament, la Bible et le Coran, celle de la reine de Saba et du roi Salomon. Un amour et des énigmes, comme vous, universels.
On cherche forcément à être universel, Angélique Kidjo, quand on est artiste et quand on est chanteuse.
Si on n'est pas universel, nous ne sommes pas des humains, parce que nous vivons les uns avec les autres. Si la pandémie m'a appris quelque chose, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans un bocal. Nous sommes là et notre survivance, notre vie est liée les uns aux autres. D'où qu'on vienne, peu importe la couleur de peau ou la langue qu'on parle.
On l'a dit plusieurs fois, vous avez remporté donc le prix Polar Music il y a une dizaine de jours, l'une des plus grandes récompenses dans le monde de la musique. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Vous en avez déjà reçu des prix, hein, mais celui-ci.
Mais quand l'email est arrivé, j'ai cru que c'était un fake news. Moi, j'ai pas cru, je suis passée à autre chose. Quelques heures après, je dis à mon mari, mais tu as répondu à cet email de Polar Press, là. Il a dit, quoi? C'est quoi ça? J'ai dit, mais ben, je sais pas, moi j'ai vu, je n'ai pas prêté attention. Il a été vite fait pour le chercher. Il a dit, mais non, ce n'est pas un fake news, c'est une réalité. Et après, on a reçu un email de confirmation et d'invitation, de nous demander si on pouvait venir faire une interview en amont du prix. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce prix? Je suis toujours dans le... Je sais pas quoi dire, quoi. C'est beaucoup. En même temps, je le reçois avec Chris Blackwell, celui qui m'a signé, qui a lancé ma carrière internationale. Et qui a fait le travail? Quelqu'un a fait un boulot dingue.
Justement, parmi les autres lauréats, il y a Arvo Pärt, qui est l'un des plus grands compositeurs contemporains, un Estonien. Et puis le Britannique Chris Blackwell, qui a fondé
Island Record
à la fin des années 50. Bob Marley, Cat Stevens, U2 ont signé chez Island. Vous avez signé chez Island. Et vous racontez que Chris Blackwell a tenu absolument à vous faire signer un contrat dans les années 80-90. Qu'est-ce qu'il dit à ses équipes à ce moment-là ?
Il a dit, en fait, ce qu'il a dit, parce que moi, quand j'ai sorti mon premier album, Paracou, j'ai envoyé dans toutes les maisons de disques sans réponse. Et un jour, Mamadou Konté, je ne sais pas si vous le rappelez de lui, Monsieur Africa Fête, a envoyé ce disque à Chris Blackwell. Il a envoyé un fax en disant, si vous ne signez pas cette chanteuse, vous n'avez plus de boulot, les gars. Donc, je vois arriver le directeur artistique de Londres, le directeur de Island France, dans ma loge, au New Morning, où j'étais en train de faire un tour de chant, et Madame Farid, la fondatrice de New Morning, qui me fait, Angélique, il y a deux gros bonnets qui vous attendent dans les loges, et vous allez bien vous comporter. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il me venait dire? Non, écoute, je suis allée, et c'est comme ça que j'ai su que Chris était derrière, parce que je me suis dit, c'est pas possible que ça ne sorte pas de nulle part. Je veux savoir ce qu'il y a, et j'ai eu le fax dans les mains, et j'ai lu.
Alors, il y a deux artistes africains qui ont déjà obtenu ce prix très prestigieux, puisqu'il y avait Myriam Makeba, je crois que c'était en 2002, Youssou N'Dour en 2013. Qu'est-ce que ça vous fait de leur succéder? Vous êtes donc la troisième artiste d'origine africaine à obtenir ce prix.
C'est lourd à porter tout ça. Mais en même temps, Myriam Makeba m'a passé le bâton il y a quelques années. Un ou deux ans avant qu'elle ne meure, sur une scène en Allemagne, où elle nous a invités, Lokua Kanza et moi, à chanter avec elle sur scène. Et en plein milieu du concert, elle arrête tout, les musiciens. Elle dit, j'ai une annonce à faire, j'ai une déclaration à faire. Elle me prend et me dit, c'est la reine de la musique africaine. Et moi, ça m'a ému énormément et je ne savais plus où me mettre, en fait. Et être à côté d'elle aujourd'hui, pratiquement 20 ans après, je crois que c'est un signe qu'elle veille toujours sur moi, où qu'elle soit, et qu'elle regarde ce monde musical qui se transforme au quotidien. Et ce qui est important pour elle, c'est rester vrai.
Et qu'elle avait raison.
Elle avait raison.
Et donc, vous allez recevoir ce prix donc le 23 mai, ça sera à Stockholm. Vous allez devoir faire un discours. Qu'est-ce que vous allez dire pendant ce discours? On peut supposer que vous allez évidemment parler de l'Afrique.
Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, parce que faut déjà que j'arrive à surpasser mon émotion. Ma mère est décédée il y a moins de 2 ans. Et c'est mon pilier qui vient de partir. Et depuis qu'elle est partie, j'essaye de me remettre debout et j'y arrive péniblement. Et je suis sûre que si elle avait été là, elle aurait fait le voyage pour venir. Elle serait venue parce qu'elle me disait toujours, tu as plus de doutes que moi, ta mère. Je sais de quoi tu es capable. Un jour, tu le comprendras aussi. J'espère que c'est ce qu'elle disait en pensant à ce genre de prix. Et rendre hommage à mes parents, c'est important. Je ne serais pas ici sans mon père, sans mon frère qui m'a aidé à écrire mes chansons. La musique a toujours été une affaire familiale pour moi. Et j'ai appris très tôt que pour réussir dans la vie, il faut se former une équipe. Une équipe qui a la même vision que vous et qui vous garde les pieds sur terre. Et ce prix, pour moi, ce n'est pas seulement pour moi toute seule, mais pour tous ceux et celles qui ont vu quelque chose en moi que je n'ai pas vu, parce que j'étais plutôt occupée à essayer de faire mon métier le mieux que je pouvais. Je vais le dédier aussi à Chris Blackwell, qui était là, qui a cru en moi. Et je ne sais pas après ce que je vais dire. Sincèrement, là, je n'arrive toujours pas à y croire jusqu'à ce que le jour arrive. Donc, on verra quand ça viendra. Je ne sais pas.
Il vous reste encore un peu de temps, Angélique.
Je vais y réfléchir.
Voilà, le 23 mai.
Et ce 23 mai, il y aura aussi beaucoup d'artistes qui seront sur scène avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'ores et déjà?
J'en sais rien, parce que c'est une surprise.
Ce sera une surprise.
Non, c'est ce qu'on m'a dit, que c'est une surprise. Mais ce qui est important pour moi de dire ici, c'est que c'est le premier prix que je reçois et tous mes frères viendront. Et ça veut dire beaucoup, parce que souvent, je reçois des prix quand je suis sur la scène, quand je reçois les Grammys, je suis là toute seule, mon mari est toujours à côté. Mais pour ce prix, je leur ai dit, j'ai un besoin que vous soyez avec moi. Parce que mes frères aussi ont fait partie de ma carrière. L'un de mes frères était batteur dans le groupe de mes frères. J'ai commencé à chanter avec lui à la batterie et moi au micro. C'est important pour moi d'avoir ma famille. Si je m'écroulais, je sais que quelqu'un sera là pour me ramasser. Et aussi qu'ils participent à ce prix, parce que les sacrifices de tout un chacun de ma famille m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
Vous avez reçu d'autres récompenses dans votre carrière, Angélique Kidjo, vous l'avez dit, 5 Grammy Awards aux États-Unis, un des grands prix remis par l'Académie Charles Cros en France. En quoi c'est important pour vous ces prix? Il y a des artistes, des gens qui n'aiment pas les récompenses, qui n'aiment pas monter sur scène. Est-ce que vous les aimez et pourquoi c'est important?
Ce n'est pas que j'aime les prix, c'est le temps que les gens passent à écouter ce que vous faites et qui pensent que ça mérite d'être remercié, d'être reconnu. Et moi, je suis humble quand je reçois un prix. C'est toujours une responsabilité qui se rajoute à d'autres. C'est-à-dire que vous recevez des prix, il faut continuer à faire le travail correctement. Sinon, ça ne veut rien dire. Et pour moi, recevoir...
Ça vous engage, donc.
C'est un engagement. C'est un engagement encore plus poussé dans ce que vous faites. On dit que je suis universaliste, je suis humaniste, mais je suis un être humain. Je ne suis pas un robot. Les émotions, je les sens. Je les reçois de plein fouet. Je n'ai pas de filtre dans les émotions. Quand je vois quelqu'un souffrir, ça me touche profondément. C'est pour ça que je ne peux pas voir des films de violence. Je ne peux pas supporter la violence gratuite. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été hypersensible. Donc, à travers ma musique, j'ai toujours réussi à transformer cette sensibilité en un message d'espoir et de force pour chacun d'entre nous. Car nous sommes des êtres humains faillibles, faibles, mais nous sommes capables de tellement de choses et nous avons peur de faire les choses.
Peut-être qu'un jour, ces récompenses, celles dont on vient de parler, seront remises à une intelligence artificielle. Tant ces intelligences artificielles sont capables de produire aujourd'hui de la musique, des chansons. C'est de plus en plus simple, et nous en avons fait l'expérience ici à TV5 en réfléchissant à ce qu'on pourrait évoquer et comment l'évoquer avec vous. On est allé sur Internet, c'est Florent Krebseg qui s'y est intéressé. Voici le résultat.
Le programme s'ouvre après une rapide identification. Première étape, le choix de la mélodie et du style. Nous opterons pour le R&B. Ensuite, la voix. Chez cette demoiselle de synthèse, ici, l'algorithme nous promet un timbre luxuriant. Pour les paroles, nous intégrons quelques lignes de votre chanson Mother Nature que vous chantiez avec Sting. Après quelques secondes de patience, le fichier s'ouvre. Voici le résultat. Don't dare, don't let them hurt you in any way. Don't ever let them steal and take the rest of you. Keep building cities from the groundwork. Rising with the wave, don't ever let them hurt you in any way. Don't ever let them steal and take the best of you.
Quelle est votre réaction?
Une machine demeurera toujours une machine.
Ça vous fait peur?
Non, c'est nous qui mettons les algorithmes dans la machine. La machine elle-même ne peut pas venir avec tout ça. Nous avons nourri la machine d'informations et elle donne ce qu'on lui donne. Mmh. Donc, moi, une machine ne peut pas me remplacer parce que je suis unique, ne peut pas vous remplacer parce que vous êtes unique. On a beau mettre les algorithmes, l'âme humaine ne peut pas être artificielle.
Mais ça peut tromper. On en a vu des exemples dans les images, dans les textes,
Ben oui.
Dans la chanson aussi. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Une intelligence artificielle a réussi à reproduire la voix d'une chanteuse américaine, Ariana Grande, en lui faisant chanter un texte qu'elle n'avait jamais chanté. Une fois qu'on a la voix, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Dit autrement, l'intelligence artificielle peut faire chanter n'importe quoi à n'importe qui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Ben, c'est le problème d'Internet aussi, déjà. On a déjà commencé à avoir la désinformation sur Internet. Ça ne m'étonne pas qu'on en arrive à le faire dans la musique. C'est à nous d'être vigilants aussi, de pouvoir... C'est-à-dire, notre intelligence à nous, elle n'est pas artificielle. Elle est beaucoup plus sensible aux choses. Et on connaît les artistes, déjà. Quand quelque chose comme cette chanson dont vous parlez d'Ariana Grande qui arrive, on connaît son répertoire, on sait qu'elle ne peut pas chanter ça. Mmh. Donc il faut approcher ça avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de vérification.
Et d'esprit critique.
Parce qu'on ne peut pas donner tout pouvoir à une machine, sinon nous ne sommes plus des humains.
Mais face à cette intelligence artificielle, il y en a qui disent qu'il faut vraiment l'arrêter, un moratoire sur l'intelligence artificielle. C'est ce que disent certains chercheurs aux États-Unis, parce que ça va trop vite et on ne sait pas où ça va. Et puis d'autres qui disent qu'il faut quand même qu'on s'en serve et qu'on fasse avec.
Moi, je ne suis pas d'accord. Quand Internet a commencé, on n'a pas pensé à mettre une législation qui protège nos enfants contre la pédophilie, contre la prostitution, les images qui... L'Internet est un endroit aujourd'hui qui est dangereux pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu au départ de mettre une législation que personne ne peut être anonyme en faisant du mal à quelqu'un.
Donc il faut une législation là pour
le pays. Il faut une législation pour protéger les droits humains. Les êtres humains ont des droits à la parole. Quand on a la parole libre, il y a aussi des conséquences qui suivent cette parole-là quand vous la dites. Mais en même temps, une machine qui est capable de vous mettre en danger... de vous faire mettre peut-être en prison pour ce que vous n'avez pas fait. S'il n'y a pas une législation en place pour vérifier la véracité de ce que dit la machine, on est dans la galère. Donc, je crois que les législateurs, les politiciens doivent vraiment se pencher sur ça et avoir une législation et mettre des garde-fous pour protéger la vie, la démocratie et les êtres humains.
Mais est-ce que l'intelligence artificielle va changer à court, à moyen ou long terme, la manière de faire de la musique, selon vous?
Pour certaines personnes, certainement. Moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours suivi mon inspiration sans aucun agenda, donc je vais continuer à écrire de la musique comme ça. S'il s'avère que l'intelligence artificielle a ma chanson, ben on verra qui c'est qui l'a écrit avant. Si c'est moi, il ne peut rien dire. Mais toutes mes chansons que j'ai écrites jusqu'au jour d'aujourd'hui, L'intelligence artificielle ne peut pas récupérer mes chansons parce que je les ai déjà déposées.
Mais c'est vertigineux ce que peut faire l'intelligence.
C'est vertigineux parce que c'est nous-mêmes. L'être humain a besoin de se dépasser, ce qui est très bien. Mais dans le dépassement de soi, de créer des choses, on ne peut pas mettre en danger des vies humaines. On a créé des sociétés où les droits humains sont grignotés tous les jours. Et quand on ne protège pas les droits des êtres humains, on ne protège pas la démocratie, on ne protège personne.
Ces intelligences artificielles, elles s'inspirent de ce qu'il y a déjà créé. C'est comme ça qu'elles sont nourries. Elles sont nourries par des chansons qui existent, des textes qui existent, des mélodies qui existent. Certains se posent la question aujourd'hui des droits d'auteur pour les textes et pour les musiques. Est-ce qu'il faut considérer ces intelligences qui vont finir par proposer des choses nouvelles? Est-ce qu'il faut proposer pour ces intelligences? Est-ce qu'il faut considérer ces intelligences, in fine, comme des auteurs, des autrices?
Non. Une machine n'est pas un être vivant. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es parce que tu es une machine, tu crées ça. Non, c'est là où j'en viens à dire qu'il faut qu'il y ait des règles. Une machine est une machine, un être humain est un être humain. Et ça, il faut absolument que nous soyons vigilants par rapport à ça. L'intelligence artificielle peut aider, par exemple, dans les maisons de retraite, pour faire plein de choses. Utilisons l'intelligence artificielle pour améliorer la vie des gens. Mais pas que ça devienne... Une menace pour la survie de l'être humain. Sinon, c'est quoi être un être humain, en fait? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose.
Parlons d'un être humain, de quelqu'un de particulièrement humain, c'est Stromae. Vous le connaissez. Stromae a annulé tous les concerts qu'il devait donner d'ici la fin du mois de mai, pour raison médicale, sans qu'on en sache plus. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, malheureusement, notamment en raison d'un épuisement professionnel, d'un burn-out, c'était il y a 5 ans. Est-ce que vous comprenez cela, Angélique Kidjo, vous qui, comme Stromae, avez une carrière internationale, des concerts dans le monde entier, vous passez d'un pays à un autre en l'espace de quelques heures, est-ce que vous comprenez
Ah oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait parce que être dans un avion, les gens voient le glamour qui est à côté, mais le choc de corps dans un avion, c'est quelque chose que je prends en compte depuis le départ. Et qu'à chaque fois que j'arrive dans un pays, que je rentre dans mon hôtel, je sors. Je laisse mes bagages, je vais marcher, je vais prendre l'air. Je vais voir comment vivent les gens. Je vais manger ce qu'on mange au quotidien. C'est-à-dire, j'ai des poches de temps comme ça que je m'approprie pour me retrouver moi-même. Et quand il faut que je dorme, je dorme. Quand je finis un concert, je ne peux pas faire la fête. Parce qu'il y a tellement d'heures, il y a si peu d'heures dans la journée que je fais 2 heures de concert, c'est comme si j'en fais 4. Parce que, comme me dit mon ORL, est-ce que Madame Kidjo pouvait chanter 70%? Je dis, je ne peux pas. Je n'ai aucun contrôle dessus. Mais j'ai un contrôle sur ce que je fais après. Comment je me nourris, le sport, comment je me repose. C'est-à-dire qu'il faut arriver à s'entourer de gens qui vous protègent aussi, qui vous disent, ça c'est trop, la distance à parcourir est trop dure. Si j'ai pas, il faut toujours, j'ai toujours des jours entre où je me repose, toujours.
Et au fil des années, vous avez le sentiment que cette pression a augmenté?
Oh là là, depuis la fin de la pandémie, c'est un peu un train à grande vitesse sans conducteur. Hein. Ah ouais. Donc, il faut s'accrocher au wagon. Parce que c'est
Pourquoi
vrai que...
Qu'est-ce qui a changé depuis
Mais parce qu'il y a eu 3 ans où les gens ne sont pas sortis. Au départ, personne n'avait envie de venir parce que les gens avaient peur. Maintenant, les gens ont soif de vivre. Donc, forcément, les concerts qui ont été annulés, moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Les concerts qui ont été annulés, que j'avais signés, certains sont venus, ça a été un goulot d'étranglement l'année dernière, parce que moi, je ne peux pas faire 5 concerts par jour, par semaine. C'est pas possible. Moi, je ne le fais pas. Je fais 3 concerts par semaine et ça me suffit. Et je me suis retrouvée à un moment donné, une fois qu'on a signé le contrat, qu'on s'est engagé, il faut le faire. Mais c'était très rare. Donc, à partir de cet instant-là, j'ai une structure qui se met en place. On dit, on va espacer de temps. On fait un bloc ici, on fait un bloc sur chaque continent. Je vais, pour rester 2 semaines ou 1 semaine quelque part, pas aller faire des allers-retours sans arrêt. Quoi. Ça n'a pas de bon sens.
Et quel conseil vous donneriez justement à des jeunes artistes, des jeunes chanteurs, de garder, comme vous l'avez dit, du temps pour eux, pour eux-mêmes, pour leur famille?
Ah, mais il faut. Ça, c'est moi, ce que je dis toujours aux artistes, c'est qu'il faut écouter son corps. Ouais. Le corps... On l'a, mais il y a des signes que le corps donne. Il faut écouter le corps. Quand on est fatigué, même si c'est la personne la plus importante au monde, tu lui dis, hey, je suis fatigué, je peux te voir demain. Si tu ne peux pas venir me voir demain, c'est aujourd'hui, mais tant pis pour toi. Il faut arriver à dire ces choses-là, à se dire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas humainement le faire. Donc, vous êtes responsable de votre propre santé, de vos choix. Moi, je ne blâme jamais personne si quelque chose m'arrive parce que je suis une personne responsable et indépendante. Je, comme mon père a l'habitude de dire, ton cerveau, ce n'est pas un plat de spaghettis, réfléchis. Utilise-le bien. Et quand tu t'engages à faire un truc, tu le fais quoi que ça te coûte. Donc, avant de dire oui à faire quelque chose, regarde ce que tu as dans ton calendrier. Réfléchis à deux fois avant de dire oui pour un truc que tu ne peux pas faire. Voilà. Il faut arrêter de se dire on est burn-out parce que c'est vrai, burn-out, ça existe. Mais à un moment donné, tu te dis j'ai un besoin de me reposer. Je me repose. Et quand je suis dans mon lit, je me repose. Le pape peut venir chez moi, il va rester dehors.
Et vous faites du yoga, vous faites du sport, qu'est-ce que vous
faites? Je fais du sport. Rester... Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport parce que je suis née asthmatique comme ma mère. Et je me rappellerai toujours cette conversation qu'il y a eu à la maison avec la famille, le sens le plus large du thème, qui disait à mes parents, mais vous allez tuer votre fille. Mon père m'a mise dans l'équipe d'athlétisme national pour faire les 1500 mètres et ma mère a dit, tu fais la natation. Quand j'ai commencé, la première fois que j'ai fait les 1500 mètres, j'ai cru que j'allais mourir d'une crise cardiaque. Mais à partir du moment où j'ai fait le premier pas, il fallait que je continue. Je ressentais ce besoin de voir jusqu'où je pouvais aller avec cet handicap qu'est l'asthme. Et j'ai commencé à coupler ça avec la natation et ça marchait fort formidablement pour moi. Du coup, j'ai renforcé mes poumons. Même pendant une crise d'asthme, je peux toujours quand même faire un concert. Et ça, je ne remercierai jamais assez mes parents. Parce qu'il dit, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas avoir une carrière.
Vous pouvez chanter alors que vous avez une crise d'asthme.
Absolument.
Vous le disiez, le rapport au concert a changé avec la pandémie. Tout le monde a envie de sortir, d'aller entendre des artistes chanter, besoin de communion, besoin de faire la fête. Si on remonte un peu, ces 20 dernières années, l'économie de la musique aussi a beaucoup changé. Vous l'avez constaté, Angélique Kidjo, notamment à cause des plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Qu'est-ce que ça a changé pour les artistes? Ils gagnent moins d'argent en vendant leurs chansons, donc il faut aller plus en tournée, donner plus de concerts pour gagner sa vie.
Le premier dommage collatéral, c'est les nouveaux artistes qui arrivent. C'est-à-dire que il y a moins d'argent à gagner à faire un disque aujourd'hui. Parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces plateformes se sont installées sans qu'il y ait une législation qui les encadre. Et une fois que c'est parti et qu'on a commencé à faire des milliards avec les droits des autres, c'est difficile de revenir en arrière. Et aucun législateur, nulle part, n'a voulu prendre le risque de se dire, attention, la propriété intellectuelle, il faut la préserver. Ce n'est pas seulement pour les chanteurs, ça c'est partout, pour les éditions, pour les journaux. C'est-à-dire qu'on s'est fait prendre en tenaille par toute cette technologie qui facilite la vie des consommateurs, mais pour ceux qui amènent du contenu, il n'y a plus rien, on n'a plus de droit. C'est vrai que Spotify a sauvé la musique, mais à quel prix? C'est au détriment des artistes, les maisons de disques n'ont pas perdu.
À votre détriment, vous l'avez senti, vous, personnellement?
Les droits d'auteur se réduisent en peau de chagrin, ça c'est clair.
La semaine dernière, nous avons appris la disparition d'un immense musicien que vous connaissiez, le japonais Ryushi Sakamoto. C'est lui qui avait composé, entre autres, la musique des films Furio ou Le Dernier Empereur. Il a aussi beaucoup travaillé autour des musiques électroniques. Vous l'avez rencontré, vous le connaissiez. Quel souvenir gardez-vous de lui?
Je garde le souvenir d'un gentleman, d'un homme... avec une intelligence pointue. Parce qu'on a fait partie du jury de Cannes ensemble, on voit les films. Et petit à petit, il y a une synergie. À un moment donné, on s'est mis ensemble. Et ces observations étaient toujours très pointues, très vraies. Et ça me permettait, moi, de regarder le film différemment, de la noter différemment. Et le rire. Le rire de Ryushi Sakamoto, c'est rare. Mais quand il rit, je ris.
Pourquoi c'était un musicien important, Ryushi Sakamoto?
Parce qu'il a su prendre des risques à un moment donné pour faire des choses qu'on n'attendait pas d'un musicien japonais. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde où on aime bien mettre les gens dans des cases. Et lui n'a pas voulu être dans une case, comme moi, je n'ai jamais voulu être dans une case non plus.
Oui, il a été acteur, il a été musicien, il a tout fait.
C'est génial.
Il a été aussi militant écologiste.
Absolument.
Voilà, il a combattu, combattu l'énergie nucléaire, notamment au Japon. Militant écologiste, comme vous, parlons-en quelques minutes d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a dix jours, vous l'avez vu, Angélique Kidjo, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur la justice climatique, un texte qui demande à la Cour internationale de justice de clarifier les obligations des États dans cette lutte contre le réchauffement. Voici ce qu'en disait alors le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à la tribune de l'ONU.
Ceux qui ont le moins contribué à cette crise sont déjà confrontés à la fois à l'enfer climatique et à des niveaux élevés de la mer. Pour certains pays, les menaces climatiques sont une condamnation à mort. En effet, c'est l'initiative de ces pays, rejoint par tant d'autres, ainsi que les efforts des jeunes du monde entier qui nous rassemblent. Et ensemble, vous écrivez l'histoire.
You are making history.
Résolution historique, résolution non contraignante, il faut le souligner, qui parle de justice climatique. Il n'y a pas assez de justice, selon vous, dans les mesures qui sont prises, qui ont été prises ces dernières années dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Est-ce qu'il y a déjà suffisamment de justice pour les êtres humains? Si on part du principe de la justice telle qu'elle existe, il n'y a pas beaucoup d'espoir, en fait. Pour moi, la terre-mère... C'est quelque chose qui m'a été inculqué par ma grand-mère maternelle. Elle était herboriste. Elle me réveillait à 5 heures du matin pour que j'aille chercher des plantes avec. Ça m'énervait royalement parce que j'avais envie de dormir. C'était pendant les vacances d'été, je pouvais dormir sans penser à l'école. Et voilà qu'on me réveillait pour aller chercher des plantes. Et elle m'expliquait que telle plante fait ci, fait telle chose, fait telle chose. Il y a une plante qu'elle me montrait tout le temps en me disant ça. C'est dangereux. Dans tous les sens du terme, on ne peut l'utiliser jamais. C'est un poison pour l'homme et ça sert à la forêt. Mais ça n'a aucune autre fonction que d'être un poison. C'est l'odeur de cette plante dont je me souviens. Quand je suis à côté, je m'en vais parce que cette plante est à côté. Et elle m'a aussi appris, elle me disait toujours, tu marches sur quoi? Sur une terre. Cette terre nous nourrit. L'agriculteur ne peut pas planter une graine sans la terre. Donc à partir du moment où tu as compris ce que je te dis, ne minimise pas l'importance de la terre. Tu es une partie infinitésimale de la terre. Moi, j'ai grandi avec ça. Et c'est vrai que les pays qui ne sont pas développés sont ceux qui paient le plus lourd tribut au changement climatique. En même temps, je pense qu'il y a de l'espoir encore. Parce que quand on éduque les gens, ils comprennent. Là où il y a eu un travail d'éducation pour faire comprendre aux gens de planter des arbres au lieu de les couper, et qu'ils ont compris l'importance que ça peut avoir sur leur village et leur vie, ça marche mieux.
Ce que disent aussi certains, c'est que faire peser la responsabilité de la lutte contre le réchauffement climatique sur les populations et uniquement sur ces populations, c'est-à-dire sur des gestes que vous et moi pouvons faire, c'est ce que vous venez de dire, c'est injuste. Parce que ce qui compte d'abord, c'est l'action des États. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Les deux ne sont pas inconciliables, mais c'est peut-être d'abord aux États d'agir avant que ce soit à nous, à notre niveau.
Les responsabilités sont partagées. Parce qu'un gouvernement tout seul ne peut pas faire. Les citoyens qui disent non, c'est pas juste, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai écrit la chanson à Golo, un matin, je me retrouve, je me regarde, je dis mais attends, chaque semaine, les éboueurs passent deux fois par semaine et ma poubelle est toujours remplie. Mais qu'est-ce que je consomme? C'est les emballages, c'est quoi? Et j'ai commencé à prêter attention à ça. Et je me rends compte que les emballages prenaient une place énorme. Et là, je me suis dit, on est dans une galère pas possible si on n'arrête pas ça. La surconsommation, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on... On a les moyens de créer des habits avec des choses recyclées. Il y a beaucoup de solutions auxquelles nous devons nous atteler tout de suite pour faire les choses. Mais on est dans cette inertie de te dire, oh, tant qu'on fait du profit, ça va aller. Jusqu'au jour où la Terre dit stop.
Alors, vous avez été sensibilisé au problème de l'environnement lorsque vous étiez jeune. Et aujourd'hui, justement, il y a pas mal il y a de nombreux jeunes, justement, qui disent qu'ils ne sont pas assez entendus. Ils disent aussi qu'ils subissent les conséquences d'un changement climatique qu'ils n'ont pas eux-mêmes provoqué. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ?
J'ai entendu ça tellement de fois. J'ai entendu tellement de choses. Je vous donne quelques exemples. J'ai fait un livre et quand j'étais en train de signer à New York, il y avait plein de gens dans la salle. On avait des questions et des réponses. Et à la fin de la signature, il y a 4 jeunes qui sont descendus, qui m'ont dit « Angélique, on adore ce que tu dis, tu as raison sur tout, mais nous, on va faire la révolution, on va tout casser. » Je dis « Stop. » Vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire. C'est bien de faire les révolutions, mais vous avez préparé ce qui va arriver après le chaos. Casser, c'est la chose la plus simple au monde. Mais construire un consensus pour que tout le monde puisse vivre dans sa différence sur une planète, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Me dire « Oh, nous, c'est pas notre problème, on va pas penser à ça. » Je dis « Alors là, je vais t'expliquer une chose. » Quand tu crées le chaos, tu es la première victime de ce chaos. Donc, il faut arriver à faire comprendre aux jeunes que c'est dans le dialogue qu'on arrive à créer un monde meilleur pour tout le monde. C'est vrai qu'ils vont souffrir de ça. Nous qui sommes ici, qui sommes des adultes, il y a des adultes qui peuvent les écouter. Il faut créer des alliances avec des gens qui peuvent les écouter et qu'on travaille ensemble et qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose au gouvernement de concret? Qu'est-ce que ces jeunes-là veulent proposer de concret qui n'est pas dans cette logique de « on va tout casser ».
Ce message, vous le faites passer notamment dans votre musique, dans l'un de vos albums, Mother Nature, c'était il y a 2 ans, il est sorti il y a 2 ans. Il était alors aussi question d'un film sur la Terre avec le photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand. Où en est le projet aujourd'hui ?
Mais on a utilisé le projet dans la vidéo parce qu'on a pensé que ça servait d'avoir la chanson et les images de la Terre ensemble. Ça faisait plus... C'était plus puissant, surtout avec Sting qui chantait sur cette chanson avec moi, parce qu'il a été l'un des premiers à parler de la forêt amazonienne. Donc, on a eu des images d'un peu partout qu'on a mis au service de Mother Nature, et ça m'a suffi largement, au lieu d'aller faire un film dessus, un autre film. La chanson peut être aussi un véhicule pour, à travers les images aussi, pour porter le message du changement climatique.
Dans cette lutte contre le changement climatique, contre ses effets, les femmes jouent un rôle majeur, en Afrique notamment. Mais ce n'est pas toujours simple. Exemple, avec une jeune Sénégalaise, Ndeye Marine Diegen, une ingénieure qui construit des entrepôts avec des matériaux recyclés et naturels. Elle aide ainsi les agriculteurs à mieux conserver leurs récoltes. TV5 Monde l'a rencontrée en fin d'année dernière. Elle nous a raconté alors les difficultés qu'elle avait rencontrées pour mener à bien ce projet.
Nous sommes dans une société quand même qui n'a pas l'habitude de voir des femmes en fait exercer déjà certains métiers et surtout s'engager dans certains combats, mener ce type de projet. Au début, ils ne me croyaient pas. Hein? Ils disaient mais qui est derrière toi en fait? Quel homme en fait est en train de mener ce projet à travers toi? Et ça, c'était en fait évident pour moi. Je savais qu'en y allant, il y avait quand même C'est ce côté-là.
Qu'est-ce que dit ce témoignage de l'Afrique d'aujourd'hui ?
Ce témoignage n'est pas seulement l'Afrique d'aujourd'hui, c'est partout. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons a été créé par et pour les hommes. Donc quand une femme veut sortir de ce canevas-là, c'est compliqué. Et le fait qu'elle dise ça, ça m'encourage parce qu'il y a une conscience chez les femmes en Afrique aujourd'hui de leur propre importance à mener des projets à bout. Ça, ce n'était pas là avant. Mais là, au jour d'aujourd'hui, les hommes partout, surtout en Afrique, se retrouvent face à des femmes qui ne veulent plus baisser les bras quand elles savent que le projet qu'elles sont en train de mettre en place va sauver leur communauté ou va servir le bien commun de cette communauté. Et c'est important que les hommes l'entendent.
Ce que dit ce témoignage aussi en creux, c'est que grâce à l'éducation, vous y avez fait référence, hein, entre autres, c'est grâce à l'éducation que cette jeune femme est arrivée à proposer ses solutions. Or, l'Afrique de l'Ouest et centrale et la région, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont les régions qui comptent le plus d'enfants non scolarisés au monde, 20% environ, c'est un chiffre de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces régions ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Je crois que c'est au niveau des structures gouvernementales que les choses ne fonctionnent pas. Vous savez, moi, ça fait des années, quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF en 2002, C'est à cette année-là qu'on a signé la Convention des droits des enfants à l'éducation universelle primaire. On a attendu 2002 pour que ce droit qui ne doit même pas être mis en question soit signé. Et là, je me suis dit, il y a du travail à faire. Et j'ai commencé à faire des messages radio, télé, pour encourager les mères pour mettre leurs enfants à l'école. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a fait énormément de progrès par rapport à quand j'ai commencé en 2002. Là, il y a des choses qui se passent en Afrique, on n'en parle pas souvent, on ne les voit pas.
Lesquelles ?
Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé ma fondation en 2006 pour mettre les jeunes filles au secondaire, parce qu'on ne peut pas réduire la pauvreté si on est seulement éduqué au niveau primaire.
La fondation Batonga. Hein.
Oui. On ne peut pas, uniquement le primaire ne suffit pas pour transformer les pays. Il faut le secondaire et l'université. Il s'est avéré qu'il y a d'autres, des filles qui ont déjà perdu tellement de qualité d'éducation au primaire qu'elles n'ont pas pu. Il faut former les profs. Est-ce que l'école est forcément là où il faut que tout le monde aille? S'il y a des enfants qui ont des aptitudes à faire autre chose, créons des ateliers, créons des métiers dans lesquels les gens peuvent travailler et coupler ça avec l'éducation. Les femmes sont au centre du changement sur le continent africain. Les femmes africaines sont la colonne vertébrale du continent africain. Et moi, j'ai investi dans l'éducation secondaire, mais ce que j'ai appris de ça, c'est quoi? Les raisons pour lesquelles les filles partent du secondaire, c'est d'abord le manque de connaissances de base au primaire, et elles sont dans un moment où elles ont envie d'aider leurs parents sans passer par un mariage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En 2016, on a changé de modèle. On a fait une levée de données dans deux villages au Bénin. Et qu'est-ce qui en sort? Les filles ont demandé d'avoir un endroit où elles peuvent s'émuler et rester ensemble. Et ça, on a mis ça en place et on a donné des fonds pour qu'elles commencent leur business. C'est, moi, je ne peux même pas parler de ça. C'est un truc affolant. De 2016 à aujourd'hui, on a 4000 ou 5000 jeunes filles. On a impacté la vie de 1 million de personnes. Tout simplement en écoutant les jeunes filles, en répondant à leurs besoins. Je n'impose rien à personne. Je dis, je suis ta partenaire. De quoi as-tu besoin? Allons-y.
Les choses changent en Afrique, vous le dites, Angélique Kidjo, beaucoup de choses changent et d'autres, malheureusement, ne changent pas. Des femmes qui comptent aussi en Afrique de l'Ouest parmi les premières victimes de la guerre menée contre les djihadistes au Sahel. C'est ce qu'a montré une femme, une journaliste burkinabé, Mariam Ouedraogo, dans ses reportages. Des reportages qui lui ont valu d'ailleurs le prix Bayeux en octobre dernier, prestigieux prix du journalisme. Qu'est-ce que vous dites de cette situation?
Mais parce que les femmes sont toujours en ligne de front, toujours. Moi, l'image que j'ai en tête, c'est de voir ma mère se lever à 5 heures du matin et être la dernière à se coucher. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Parce que les femmes portent des sociétés. Donc forcément, quand elles se lèvent tôt pour aller travailler, elles sont vulnérables. Elles sont accompagnées par un homme qui pense. Les hommes, ils pensent même pas à ça. C'est-à-dire que tant que la nourriture est sur la table, et qu'ils peuvent mettre leurs pieds sous la table et manger, tout va bien. Il faut que ça change parce que si les femmes continuent à être des victimes du djihadisme, il n'y aura plus de société. Et c'est ça que les hommes en Afrique ne comprennent pas encore, que le pouvoir de la femme, c'est de leur permettre de s'élever pour jouer leur rôle vraiment. Ce n'est pas les pousser de côté. Les femmes africaines ou les femmes en général, surtout pas moi, je ne suis pas contre les hommes. Au contraire. Les hommes sont des alliés qui peuvent nous permettre d'avancer rapidement.
Alors, vous êtes béninoise et depuis à peu près un an, votre pays a été frappé par différentes attaques, justement, djihadistes.
Dans le nord du pays.
Dans le nord du pays, absolument. Et on sent qu'il y a une poussée vers les pays côtiers, la Côte d'Ivoire aussi dans le nord, le Bénin, le Togo également. Est-ce que cela vous inquiète?
Oui, cela m'inquiète parce que j'étais dans le nord du Bénin en décembre dernier. Et avec la sécheresse et le manque de nourriture, déjà, on absorbe pas mal déjà d'enfants qui arrivent du Burkina Faso et du Niger. Et on réussit jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, à intégrer ces enfants, certains sont arrivés non accompagnés, à les mettre à l'école, Certains, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été à l'école. Nous, on veut essayer de leur donner une éducation et les mettre à l'école. Mais les ressources qu'il y a dans le Nord ne sont pas aussi évoluées que dans le Sud. Donc, le gouvernement essaye de mettre des centres en place où on peut parler ensemble, trouver des solutions, apprendre un métier aux jeunes. Mais le gros problème, c'est que les jeunes, s'ils avaient un métier, ils ne seront pas tentés d'aller mettre leur vie de l'autre côté. Donc, il y a pour moi, fondamentalement, les jeunes seront au centre de ce défi. Est-ce que l'UNICEF a mis en place une initiative qui s'appelle You Report. C'est-à-dire que les jeunes ont un téléphone et ils sont des reporters. C'est-à-dire qu'ils vont dans leur communauté et rapportent ce qui se passe et sensibilisent les jeunes dans ce qui se passe. J'ai été absolument époustouflée par l'engagement des jeunes garçons comme des jeunes filles dans le nord du Bénin qui veulent lutter sur tous les fronts contre l'alcoolisme des jeunes, contre le manque d'emploi, contre les mariages. Moi, les jeunes, là, ils me parlent, je suis assise, là, je dis, eh ben, dis donc, c'est incroyable.
On va parler de francophonie dans quelques instants avec vous, Angélique Kidjo, et leur tourne, hein, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Encore un mot, cela dit, sur le Bénin. Le Bénin, c'est l'un des rares pays au monde à avoir rendu un hommage aux femmes, à ces femmes, à leur courage, à leur combativité. Il l'a fait notamment en érigeant une grande statue l'an dernier, celle d'une Amazone, du Dahomey, une jeune guerrière. On pense là à ces guerrières, hein, il y a quelques siècles. Ça a été porté à l'écran il y a quelques mois par Hollywood, The Woman King. Vous y avez d'ailleurs apporté votre écho. Que pensez-vous de cet hommage et de cette statue ?
Mais c'est bien l'hommage, mais l'hommage, je trouve que c'est super. Maintenant, il faut que ça soit suivi d'action. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des lois qui soient respectées, pas d'harcèlement sexuel au travail, pas de viol impuni, et que la femme soit réintégrée dans ses droits intégralement, avoir accès au crédit dans les banques, pas seulement les hommes qui disent... parce que le monde financier, c'est aussi dominé par les hommes. Donc, la femme, si elle n'a pas un collatéral de terre, machin... Non, il faut que... Ça, c'est bien, c'est très important.
C'est le passé, mais il faut penser au présent.
Ah non, mais c'est le passé. Ces femmes se sont battues pour que tout le monde soit libre. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui sont toujours celles qui sont en train de souffrir pour nourrir leur famille et les hommes ne font rien? Il faut un changement fondamental dans nos pays.
Vous chantez en 5 langues, Angélique. Yoruba, Fon, Mina, anglais et français, j'en oublie peut-être.
En espagnol aussi.
En espagnol aussi, alors 6. Voilà. Que représente le français pour vous? On est la chaîne de la francophonie ici sur TV5 Monde. Que représente le français au sein de toutes ces langues?
Mais la langue française, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est quand je pars du Sud et que je vais dans le Nord où je ne parle aucune langue, la seule langue, c'est la langue française qu'on parle.
Au Bénin.
Au Bénin. Hein. Parce que je ne parle aucune des langues du Nord. C'est une langue qu'on a héritée d'un passé douloureux. Ça nous lie, ça nous permet de raconter nos histoires. Et il faut qu'en tant que francophone, on ne soit pas mis de côté parce que nous parlons la langue française et nous l'enrichissons. C'est-à-dire que les Africains ont un rapport avec la langue française que les Français ne comprennent même pas. Parce qu'on invente des mots qui raconte notre propre identité. Donc c'est ça la langue française pour moi, qui évolue avec les Africains, par les Africains, qui se l'approprient.
Vous avez plusieurs concerts à venir, Angélique Kidjo. Vous serez à la Nouvelle-Orléans à la fin du mois, le 29 avril précisément. En juillet, vous serez au Danemark, à Roskilde, grand festival, Manchester au Royaume-Uni, puis à Juan-les-Pins en France pour Jazz à Juan. Vous serez alors sur scène avec d'autres chanteuses, avec Imani et Fatoumata Diawara, un trio donc. Et vous avez un duo actuellement avec l'un des plus grands chanteurs africains, une des plus grandes stars africaines, Davido, un chanteur américano-nigérian, le premier artiste africain à être classé numéro 1 sur iTunes. Voici un extrait de ce duo. Voilà votre collaboration avec Davido qui nous fait danser. Vous collaborez souvent, on l'a vu, avec d'autres artistes en concert ou dans des albums. Pourquoi? Vous avez peur d'être seul finalement?
Non, sur ce... pas du tout.
Pourquoi
musique,
autant de collaborations?
C'est un partage. Ouais. C'est un partage et j'apprends toujours quelque chose quand je fais une collaboration. Et j'aimerais que le monde soit perçu comme un orchestre philharmonique avec un conducteur et chaque personne à sa place. Et ensemble, on crée une harmonie génial.
Alors, vous avez chanté avec les plus grands chanteurs de cette planète. Est-ce qu'il y a un duo qui vous ferait rêver aujourd'hui?
Il y en a tellement. Alors, si je commence à faire ça, on va faire une émission par rapport. Donc, je vais laisser ça là. Et puis, parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, parce qu'il y en a vraiment avec lesquels j'ai envie de travailler par affinité et aussi par leur engagement sur beaucoup de plans.
À quand votre prochain album?
Je ne suis pas pressée, moi.
Vous avez beaucoup de concerts.
Non, je ne suis pas pressée parce que j'ai envie de faire un album qui a un sens pour moi. Moi, chaque fois que je fais un album, je passe 2 à 3 ans à défendre cet album dans le monde entier. Et j'ai envie de pouvoir continuer à chanter en ayant du plaisir à le faire. Et si je ne prends pas plus de plaisir pour le faire, je ne ferai plus de disques. Mais là, j'ai commencé déjà pas à travailler, mais je ne vais pas dire plus que ça.
Dernière question. La vice-présidente américaine Kamala Harris était en tournée sur le continent africain il y a quelques jours. Elle a appelé notamment à plus d'investissements. Il faut investir dans l'innovation en Afrique, dit-elle. L'Afrique est l'avenir du monde. Est-ce que vous partagez cette...
Mais l'Afrique est le continent qui a une population de jeunes en dessous de 19 ans qui est absolument incroyable. Et je crois qu'on sous-estime ce continent qui est le mien. Les choses qui se passent en Afrique, il y en a, en plus c'est un continent, on ne peut pas tout suivre. Tous les jours, il y a une innovation. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et même moi, quand je vais en Afrique, je suis là. Wow, il y a 6 mois, j'étais là, il n'y avait pas ça.
Malgré les difficultés que
Les difficultés, nous sommes des peuples de survivance. Nous ne vivons pas, nous survivons parce que nous sommes toujours aux mains, malgré nos richesses. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Et personne n'a encore réussi à me faire comprendre, à m'expliquer pourquoi le continent le plus riche du monde a les populations les plus pauvres du monde. Donc, quelque part, il y a une responsabilité partagée avec le monde dans lequel nous vivons pour repenser nos relations par rapport à l'Afrique. Parce que quand on humilie les gens, ça finit mal, très mal. On le sait parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que les Allemands ont été humiliés. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a une histoire d'humiliation aussi dedans. Donc, moi, je dis toujours... On ne peut pas continuer à penser que les Africains sont des grands enfants qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes et qu'on ne peut pas investir en Afrique comme on investirait ailleurs. Il y a des cerveaux en Afrique, il y a des capacités en Afrique. Il est temps qu'on arrête de nous traiter comme les parents pauvres de la planète.
L'Afrique est l'avenir du monde. On va se quitter
sur
ce constat. Merci infiniment, Angélique Kidjo. Merci de vous être arrêtée sur le plateau d'International sur TV5 Monde. Merci à vous, Pierre Lépidi, du journal Le Monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon vent pour vos concerts. On viendra vous applaudir.
Oui.
Voilà, merci encore.
Il faut venir danser. Hein.
Exactement. Je vous dis à la semaine prochaine.